Est-ce que la langue de scolarisation, les gens savent bien ce que c'est finalement? Tu as parlé de nombreux travaux qui existent, tu as dit que ça a été souvent décrit et tout. Je me demande si vraiment c'est vraiment aussi bien décrit que ça, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment on voit bien, on a bien une idée comme ça, mais finalement concrètement, j'ai l'impression qu'on sait, par exemple, qu'en formation, c'est quelque chose qui n'est pas tellement autant traité que ça, quoi.
Oui, moi je suis d'accord. En fait, c'est une catégorie qui est commode, donc qui est surtout commode pour désigner implicitement et pour euphémiser des types d'élèves. C'est-à-dire que elle permet de désigner des élèves qui n'ont pas le français comme langue familiale et qui doivent l'apprendre à l'école. Et donc ça évite de parler de la diversité, en fait. Je pense que, enfin, j'aurais tendance à dire que du point de vue sociolinguistique, c'est une façon d'euphémiser une certaine catégorie d'élèves. Et du point de vue institutionnel, ça permet de désigner d'une manière globale le français qu'on enseigne, mais sans vraiment réfléchir effectivement à ce français, qui d'ailleurs n'est, suivant les auteurs, se confond aussi avec le français standard, avec la langue nationale, enfin la langue maternelle dans certains cas. Enfin, on a beaucoup de flottement effectivement dans les catégories.
Bon, peut-être pour. Moi, j'aurais peut-être plus une remarque qu'une question. Donc, par rapport à hier, donc on a eu trois interventions où la question de la production écrite était pas n'a pas été abordée. Donc je suis contente que tu aies intégré à ta présentation l'analyse de production d'élèves. Je trouve assez frappant ce que tu soulignais sur le fait que souvent l'évaluation porte sur une zone qui est celle de l'orthographe, hein, et de l'orthographe grammaticale, et ça on l'a pas du tout abordé hier. Je trouve que c'est pourtant une question importante à réfléchir dans le cadre de cette formation qui se donne comme objet la problématique des liens entre diversité linguistique et production des inégalités scolaires. Et je trouve que là, le lien que tu fais entre une zone de vulnérabilité qui est celle de l'orthographe grammaticale et surtout le regard porté par l'institution, dans les personnes des évaluateurs des productions d'élèves, un point de focalisation sur l'orthographe qui va masquer, donc ça, je renvoie hier à ce qu'on disait sur les effets de focalisation et de masquage. Je trouve que là on en a un qui est intéressant aussi, avec focalisation sur l'orthographe grammaticale qui vient parfois masquer tout un éventail possible d'autres compétences qui du coup sont dévalorisées, quoi, enfin, ou ne sont pas évaluées positivement. Et je crois que du coup ce que tu proposes comme étant un changement de regard sur les compétences des élèves, ça, enfin, voilà, ça vient compléter, je trouve, ce qui a été dit hier de manière assez intéressante.
À savoir comment créer une communauté par rapport à cette entrée-là, être partagé en fait ces questions-là en termes de où se trouvent ces points de fragilité, ces points de vulnérabilité, et est-ce qu'on se met d'accord sur des corpus d'éléments à regarder, à prendre en compte, et d'autres à mettre en, peut-être à revoir la hiérarchisation de ces priorités par rapport aux acquis des élèves et à leur production, que ce soit à l'oral comme on l'a remarqué hier, qu'à l'écrit. Donc du coup, ça induit une certaine forme de travail en formation et des points sur lesquels on a à se mettre d'accord. Donc par rapport à aux problématiques que vous avez soulevées hier, c'est vrai que ça re-questionne peut-être certaines des problématiques qui ont été posées hier.
Oui, avec nos collègues qui sont juste devant moi, nous parlions hier de l'explicitation. Au niveau, c'est-à-dire avant de, est-ce que l'objet de l'éducation, de l'apprentissage doit être explicité, je crois, avant qu'on puisse essayer de lui adapter le langage scolaire. Je suis peut-être pas bien clair. C'est-à-dire quel projet de l'école, quel projet de société. Qu'est-ce qu'on veut enseigner? Qu'est-ce qu'on peut enlever des programmes pour les alléger, pour pouvoir un peu donner, comme dirait l'autre, donner du temps au temps pour pouvoir avancer? Et expliciter aussi un petit peu le contenu de certains manuels scolaires qui sont opaques, même pour ceux qui ont le code, si vous voulez, et le bagage linguistique pour essayer d'y aller. Il s'est fait de voir un petit peu certaines consignes dans certains manuels scolaires pour être désespéré que nos élèves puissent suivre. Voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas d'abord une réflexion à mener sur l'objet de l'enseignement avant ou en même temps de lui adapter le langage scolaire. Merci.
Enfin, moi, il me semble, je pense que plus on ira vers la formulation d'objectifs clairs, avec des progressions ayant une finalité explicite, plus les élèves aussi sauront ce qu'ils doivent apprendre, pourquoi faire, et je pense que mieux ce sera. Il est certain que l'explicitation des objectifs est toujours une dynamique qui est positive. Je suis entièrement d'accord.
Voilà, merci. Donc je pars toujours de constat de chez moi. En fait, nous avons constaté chez nous que deux ethnies s'expriment bien en français. Ce sont les deux ethnies qui s'expriment le mieux en français au Sénégal. C'est l'ethnie Peul et l'ethnie Sérère. En fait, je ne sais pas. Nos linguistes disent qu'en fait, c'est des langues qui ont une grammaire très fouillée, très développée. Peut-être c'est dû à ça. Tout ça pour dire quel rapport y a-t-il entre la langue maternelle et notre langue officielle, le français. Est-ce que ce rapport, il y a un lien? Vous pensez qu'il y a ce lien-là?
C'est-à-dire que oui, je pense que effectivement, quand il y a une, au niveau d'une approche, enfin, si on se base sur des approches, enfin, si on se place au niveau d'apprentissage qui serait en milieu naturel et qui serait plutôt intuitif que structuré et explicite, il me semble que s'il y a une parenté entre les langues, enfin en tout cas une homologie peut-être, soit de structure, il y a peut-être une facilité, si vous voulez, d'apprentissage ou de manipulation de certaines structures. Mais en même temps, d'abord déjà, il faudrait l'attester. Enfin, il faudrait avoir des observables, si vous voulez, sur la question. Moi, personnellement, je n'en ai pas, donc je n'irai pas plus loin, si vous voulez, sur ce plan. Par ailleurs, là, on est au niveau d'une approche contrastive, c'est-à-dire que, effectivement, si on est dans une situation où les langues en présence sont bien identifiées, une approche contrastive comparerait, si vous voulez, des éléments des deux langues de manière assez organisée et systématique, peut tout à fait donner des résultats. Et d'ailleurs, Nathalie Auger, par exemple, a proposé quelque chose qui s'appelle comparons nos langues. Donc, ça, il y a des travaux qui existent déjà en ce sens. En revanche, pour une classe où vous avez de nombreuses langues en présence, si vous avez 7 ou 8 langues en présence, ça va être très difficile, à mon avis, de mettre en place ce type d'apprentissage. Donc, voilà, je pense qu'il faut aller vers d'autres pistes.
J'aurais voulu savoir, enfin, j'aurais voulu que vous reveniez sur un élément de conclusion que j'ai pas eu le temps de prendre en note. Quand vous dites assouplir la norme monolingue, vous voulez dire quoi exactement ?
Oui, c'est vrai que c'était un peu allusif, c'est-à-dire que l'approche sociolinguistique hein, qui est faite du français, enfin de la France, c'est que nous sommes dans le cadre de ce qu'on appelle un État-nation qui est fondé sur le modèle un pays, une langue. Et l'histoire du français, par ailleurs, est quand même très riche en la matière, puisque les révolutionnaires ont imposé la norme monolingue. Hein, et je vous renvoie notamment donc au rapport de l'abbé Grégoire sur les patois, avec la volonté d'imposer par le biais de l'école une langue unique qui était la langue de la nation. Et vous avez quand même des textes fondateurs sur la question, parce que vous avez le rapport Grégoire aussi, mais Condorcet a écrit aussi sur le sujet, Victor Duruy plus tard, et vous avez toute une idéologie liée à l'école de la Troisième République, enfin ou développée par l'école de la Troisième République sur cette question, et notamment la stigmatisation des langues régionales a été, je dirais, un des dommages collatéraux, si vous voulez, de cette question. Ce qui fait qu'en fait, en France, il y a quand même une tradition. Alors peut-être qu'elle est moins forte qu'elle n'a pu l'être, mais on reste quand même sur cet implicite et qui est latent, qui n'est pas toujours formulé de manière très claire chez les par les enseignants, qui est que le français est la langue de la nation. Et d'ailleurs, le français est la langue de la République et le français est aussi la langue de l'enseignement. Et ça, c'est dans la Constitution, c'est aussi dans le Code de l'éducation. C'est-à-dire que, notamment dans le cadre scolaire et à l'école publique, les échanges ne peuvent avoir, en dehors des cours de langue, qui sont des cours explicites de langue, donc que ce soit des cours de langue vivante étrangère ou des cours de langue régionale, les échanges se font en français, ils ne se font pas dans une autre langue que le français. Ça, c'est quand même une dimension qui est particulièrement remarquable, si vous voulez, justement pour illustrer cette question de normes monolingues. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre
question ? Donc c'est politique, c'est ça que je voulais juste vérifier, si j'avais bien compris. Donc,
oui, c'est politique.
Voilà, c'est ça. C'est tout à fait ce que je voulais vérifier. Oui. Merci. Et alors j'ai une autre remarque, moi, qui m'inquiète un peu, enfin qui m'inquiète, quand on parle de langue de scolarisation, et avec les enseignants, on a quand même du mal à aussi leur demander, eux. Moi, j'ai enseigné en classe d'accueil, enfin en unité pédagogique d'intégration pendant 3 ans, et on n'arrivait pas à produire des outils entre nous pour savoir quel était le lexique de base ou présumé comme tel dont il fallait disposer pour pouvoir être intégré en telle ou telle discipline, SVT, sciences physiques, etc. Donc moi, votre intervention, je la comprends très bien parce que je suis prof de lettres, donc voilà, les copies, le barème, la variation, etc., je comprends très bien, mais je me dis, quand je dois préparer un élève à intégrer une classe de sciences ou une classe de technologie ou que sais-je, je me rends compte que la langue de cette discipline n'est pas la même que la mienne et que donc le français de scolarisation, c'est la langue de toutes les disciplines. Et si personne ne se penche sur la question, comment est-ce qu'on peut faire pour les faire entrer dedans ? Je me demande comment on pourrait faire pour approcher les enseignants, pour obliger un peu ou pour faire réfléchir en termes de formation les enseignants à la propre langue qui est développée dans leur propre discipline, qui finalement, nous, on appelle ça le français de la langue de scolarisation, mais finalement, c'est alors, un champ beaucoup plus grand.
Bon, moi, si vous voulez, ce que je vais dire est une suggestion et c'est une suggestion qui n'est pas le résultat d'une réflexion. Donc, si vous voulez, c'est une réaction spontanée à ce que vous dites. Moi, je pense qu'il faut travailler sur objectif, c'est-à-dire que on a, dans le cadre, si vous voulez, des formations en français, on a du français sur objectif spécifique, on a du français sur objectif universitaire. Je pense qu'on peut, quand on forme notamment des étudiants, si vous voulez, qui doivent travailler dans des soit dans des écoles soit faire des études d'ingénieur, soit faire des études de commerce. Moi, j'ai dirigé une thèse d'une étudiante algérienne qui travaille sur le français des sciences et notamment des maths. Eh bien, elle a travaillé à la fois sur les cours des enseignants. Alors, je vais vous dire ce qu'elle a fait. Ça peut vous donner éventuellement une idée. Elle a établi tout un corpus à partir des cours des enseignants de première et deuxième année de sciences, et de mathématiques, donc dans les universités de Oran et de Mostaganem. Elle a ensuite regardé les copies des étudiants. Donc elle a travaillé sur un gros corpus. Hein. Elle a fait un gros travail de corpus et elle a donc fait la recension non seulement de tous les termes qui était nécessaire pour ces étudiants qui sont arabophones pour la plupart, donc qui ont du mal avec ce français des maths et ce français des sciences. Pour ces élèves, elle a recensé tous les termes nécessaires, mais pas seulement, elle a aussi recensé les structures syntaxiques dont ils avaient besoin. Et en se penchant sur finalement une comparaison entre d'un côté le cours des enseignants et de l'autre côté les productions des étudiants, et en voyant sur quoi ça, là où ça pêchait en quelque sorte. Et elle a établi une sorte de document, si vous voulez, où vous avez une sorte de référentiel de ce qu'il faut enseigner aux étudiants de sciences en première et deuxième année, de manière à ce qu'ils aient le français de base pour suivre les cours, en fait, tout simplement. Et je sais que ça existe pour les études commerciales, pour les études d'ingénieur, enfin, ça existe dans de nombreux domaines. Donc je pense qu'en fait, c'est ça qu'il faut faire. Donc il faut faire un... Je pense que à mon avis, ça n'existe pas dans le commerce, si vous voulez, mais donc je pense qu'il faut le faire soi-même. Produire un outil soi-même, ou un logiciel, enfin bon, voilà.
Et puis, à travers tous ces échanges, je trouve qu'il y a la question de la temporalité qui est intéressante par rapport aux élèves allophones, c'est-à-dire qu'à un moment, vous citiez Schiss qui disait « Le français est l'outil de construction des savoirs permettant l'entrée dans la littératie ». Là, vous vous demandez qu'est-ce qu'il faut en prérequis pour pouvoir, en termes de français langue de scolarisation ou français langue des disciplines, pour pouvoir investir une discipline. Et on se pose jamais la question à l'inverse, c'est-à-dire que les élèves allophones arrivant qui arrivent, ils sont déjà entrés dans les savoirs et dans une littératie autre. Ils ont des compétences dans la discipline sans doute transférables et que ça peut-être se faire simultanément. C'est pas forcément un prérequis comme on a. C'est-à-dire qu'il faut la maîtrise de la langue de scolarisation normée dont on voit même que des élèves nés en France et qui ont baigné dedans ont du mal à l'acquérir, et qu'on peut-être rentrer dans les savoirs disciplinaires et construire en parallèle ou a posteriori la langue de la discipline qui va avec. Parce que ces élèves-là, le savoir disciplinaire, ils l'ont déjà, et la littératie, ils l'ont déjà. Et du coup, je trouve que c'est intéressant de voir comment, même nous, entre nous, on est toujours dans cette logique et on se questionne sur qu'est-ce qu'il faut en préalable à. Pourquoi c'est pas a posteriori ?
Oui, je voudrais revenir sur un point. Je ne suis pas sûre de l'avoir bien compris. Et ce point fait écho à ce que vous disiez à l'instant. Vous avez bien expliqué l'importance de partir du français que les élèves parlent pour arriver autant que faire se peut à ce français scolaire. Vous avez parlé d'apprentissage prioritaire et de la. Vous avez évoqué à un moment donné la progression, le fait qu'établir une progression n'était peut-être pas l'élément clé. Alors, est-ce que je n'ai pas très bien saisi, mais est-ce que vous pourrez revenir sur ce point? Parce que c'est souvent quelque chose que l'on aborde avec les enseignants. Alors, moi, je suis dans le premier degré, mais c'est souvent un point qui ressort et que l'on préconise aussi dans les politiques de cycle pour qu'il y ait une démarche concertée, commune, favorable justement à des pratiques collectives, donc au service des apprentissages. Est-ce que la progression, c'est finalement quelque chose qui n'est pas forcément l'entrée à privilégier? Quand je dis progression, concertée au sein d'un même cycle.
Je ne pensais pas avoir dit ça.
Alors j'avais mal saisi.
Mais si j'ai peut-être parce que ça, en tout cas, c'est moi qui me suis sûrement mal exprimée parce que. je n'ai pas dit ça, et je ne pensais pas avoir même abordé, si vous voulez, vraiment ce type de questionnement. Donc, parce que faudrait que je retrouve.
Justement, c'est sans doute moi qui ai mal compris. À un moment donné, effectivement, je crois avoir noté, vous aviez parlé de la construction d'une progression sur un cycle, et du coup, voilà, je pensais avoir compris que ce n'était pas l'entrée à privilégier. Voilà, exactement. Donc c'était cela qui était un petit peu. Oui. Si vous pouviez revenir dessus pour l'éclaircir.
Je vous remercie de. Ce que je veux dire par là, si vous voulez, c'est que il me semble qu'il faut. Alors je vais parler surtout en termes de construction de savoir linguistique, notamment par exemple en syntaxe. Et en orthographe sur des accords de base. Je pense que si on considère les programmes qui sont... ce que je voulais dire exactement, c'est que souvent les programmes sont redondants. C'est-à-dire qu'on a l'impression que d'une année sur l'autre, on a toujours la même chose au programme, hein, notamment en grammaire. Eh bien, il me semble qu'il faut sortir de cette logique. Et plutôt que de se dire, je fais le programme tous les ans, c'est que, par exemple, je sais pas, je fais l'accord du participe passé ou la syntaxe du complément d'objet des choses de cet ordre. Je me fixe des objectifs très précis en me disant qu'est-ce que socialement un élève doit maîtriser au sortir, par exemple, du collège. C'est-à-dire que qu'est-ce que on est en droit d'attendre que l'école enseigne à un élève à l'issue de 4 années de scolarité au collège. Et donc il y a peut-être des tas de choses à éliminer parce qu'elles sont pas forcément directement nécessaires. Ce que je voulais dire simplement, c'était que peut-être que faire le programme et la totalité du programme n'était pas un objectif en soi, mais que peut-être se fixer des objectifs prioritaires en partant des productions des élèves, des productions concrètes, si vous voulez, de leur maîtrise réelle, observable plutôt que réelle de la langue, afin de les amener vers des objectifs qu'on se serait fixés, serait la bonne démarche. Enfin, c'est une suggestion, hein, voilà. C'est ça que je voulais dire, oui. Non, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas de progression, hein, c'est... Je veux dire par là que je pose la question. Enfin, moi, j'ai pas à intervenir, si vous voulez, sur ces questions de savoir s'il faut faire le programme ou pas. Enfin, c'est pas mon domaine, mais en tant que, je dirais, ayant eu à former et formant toujours à l'épreuve de grammaire et stylistique du CAPES, des étudiants, si vous voulez, je me pose quand même forcément, nécessairement, la question de l'enseignement de la grammaire, et donc. Je me dis que peut-être il y a des éléments qui sont vraiment importants en grammaire peut-être que d'autres le sont moins. Alors la question que je pose, c'est est-ce qu'il ne faut pas aller vers un enseignement de la grammaire minimal et suffisant et vraiment utile socialement et peut-être laisser de côté ou considérer comme moins prioritaire d'autres éléments qui sont peut-être moins directement... utile. Voilà, je ne vais pas plus loin.